Dernier avertissement concernant l'espace public. L'espace public est un espace neutre, c'est-à-dire que toute manifestation d'existence singulière y représente une atteinte à l'intégrité d'autrui. Tout sera désormais mis en œuvre, mobilier urbain, décors adéquats, contrôle continu, pour rendre impossible... Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce qui se passe ?
On va carrément réunion,
ce n'est pas une émission de radio, c'est un pli, un espace d'apparition, c'est un iceberg, un exercice de perception, un transformateur, un accélérateur, une pièce dans un mouvement.
Bonjour à tous, alors vous êtes bien sur Vacarme en réunion sur Radio Campus 92.2. Alors comme d'habitude, on va commencer par les actualités de cette semaine, donc revenir sur quelques faits divers qui nous ont un peu interpellés. Donc aujourd'hui, on a un peu laissé de côté les braquages en se disant que ça avait été un peu notre ligne de combat ces trois dernières émissions, et on s'est dit qu'on allait s'intéresser un peu plus à des histoires de fraude, et là particulièrement à une histoire de contrôleur, d'arrestation, où Divya a encore une place assez centrale. Donc je vais laisser Bobby nous présenter tout ça, parce qu'apparemment il a fait quelques recherches sur cette affaire-là. Voilà.
Ouais, Divya a encore frappé. J'ai pas vraiment fait quelques recherches, je suis tombé sur un article sur le bien public qui relatait donc ce fait divers qui est arrivé mardi, apparemment vers midi. Donc trois jeunes gens, les équipes de Divya ont appelé la police en renfort parce que trois jeunes gens se montraient visiblement récalcitrants au contrôle, et ces trois personnes ont fini en garde à vue. Les informations que nous permettent d'avoir le bien public disent que elles ont avoué partiellement avoir insulté les agents et avoir tenté de s'enfuir pour se soustraire au contrôle qui devait avoir lieu place de la République à l'arrêt de tramway. Donc pour ça, elles se sont retrouvées en garde à vue, sauf que le problème, c'est qu'apparemment dans la bousculade, les agents ont été légèrement blessés et ils ont eu le droit à deux jours d'interruption totale de travail, c'est pas grand chose, et il en faut peu aux policiers et aux agents de contrôle pour prétexter une blessure qui leur permette un tel arrêt de travail. Sauf que le problème, c'est que deux de ces jeunes gens se sont retrouvés pas moins qu'en prison. Le premier parce qu'il était sous contrôle judiciaire. Enfin, en tout cas, il avait un bracelet électronique. Il purgeait une peine alternative à la prison et il a été incarcéré immédiatement après sa garde à vue. Le second, lui, a été placé en détention préventive à l'issue de sa garde à vue. Donc il a été mis en prison jusqu'à son procès qui devait avoir lieu cet après-midi selon... le bien public, donc il devait passer en comparution immédiate. On ne sait donc pas on n'a pas réussi à savoir ce qui lui était arrivé. Et le troisième a été mis hors de cause apparemment et a pu ressortir libre de sa garde à vue. Voilà, donc on voulait un peu attirer l'attention sur ce fait divers car ça nous paraissait un peu démesuré les conséquences de ce contrôle.
Et par rapport à donc ces pratiques de fraude dans les transports en commun, moi je me demandais justement si c'était des pratiques plus ou moins récentes, plus ou moins récurrentes dans différentes villes de France. J'ai entendu parler dans une émission sur Europe 1, qui n'était pas très très intéressante d'ailleurs, d'une mutuelle de fraudeurs à Paris. Je ne sais pas si vous connaissez ces choses-là ou si vous pourriez en parler.
Je crois que les pratiques de fraude sont vieilles comme le monde, ça c'est sûr. Après, les mutuelles de fraudeurs, c'est vrai qu'on en a plus entendu parler ces derniers temps, particulièrement à Paris, en raison de l'importance des transports dans la vie des Parisiens. Mais il y en a qui ont été recensés un peu partout, à Lille, dans d'autres villes. Et de ce qu'on en sait, c'est des mutuelles donc où les gens s'organisent en fait pour mutualiser le coût des amendes, c'est-à-dire qu'en fait ils se regroupent et ils mettent de l'argent en commun pour payer les amendes des uns des autres quand il se trouve que par malchance quelqu'un se fait contrôler et n'arrive pas à s'enfuir. Donc, c'est des mutuelles qui peuvent aussi organiser des repas de soutien, des fêtes qui sont destinées à ramasser un peu d'argent pour soutenir les membres de la mutuelle ou soutenir d'autres mutuelles en création. Donc, c'est des petites structures associatives et souvent, c'est des gens qui se retrouvent pour ça et puis pour discuter un peu tout et qui parfois sortent des textes ou ont un peu un engagement militant, etc. Voilà.
Et à Dijon, il existe ce genre de mutuelle ou d'autres systèmes qui permettraient de savoir un peu où sont les contrôleurs, de ne pas se faire contrôler de...
Je sais pas s'il y a des mutuelles de fraudeurs. Peut-être qu'il y a des mutuelles de fraudeurs secrètes à Dijon, on l'espère. En tout cas, ce qu'on a pu savoir concernant là-dessus, c'est que il y a des comptes Facebook qui sont apparus un peu partout en France, des comptes Facebook qui permettent de savoir en temps réel où est-ce qu'il y a des contrôles, où est-ce que se trouvent les contrôleurs. Et particulièrement à Dijon, il y a eu une sorte de polémique l'année dernière lorsque ça s'est su. Et il y a une contre-association peut-être montée par Divia ou par des usagers un peu trop consciencieux qui s'appelait J'aime Divia, donc qui ont créé une autre page Facebook pour défendre Divia en donnant des informations concernant les grèves, les perturbations de trafic, etc.
Et ce que tu disais là sur les pages Facebook, c'est un phénomène qui a vraiment dans plein de villes en France où tu as soit des sites, soit des pages Facebook qui pratiquement en temps réel, en fait, tu as des informations sur où est-ce qu'il y a des contrôles à tel arrêt, etc. Et il y a deux villes, à Lyon et à Montpellier, il y a même des applications pour les téléphones portables. Du coup, voilà, tu montes dans le bus, tu regardes ton portable et tu sais où est-ce qu'il y a des contrôleurs ou pas.
D'accord. Bon, bah alors on va s'arrêter là pour la fraude et on va vous passer un petit morceau de musique. Donc on rappelle qu'on est bien sur Vacarme en Réunion à Radio Campus 92.2. Et donc on a choisi de vous passer un morceau qui s'appelle Passager clandestin d'Oxmo Puccino.
Allô, paraît que la police te cherche. Faut pas qu'on te localise. Vais-je devoir accrocher ou me les coller au derche? Les voisins ont vu ta photo, chaussy, ils te reconnaissent. La Laguna grise ne bouge plus de ton adresse. Ton blaze est sorti dans une sale affaire. Tu l'es fait ou pas? Pour eux t'es coupable. Tant que ça chauffe, l'atmosphère est peu potable. Envoie ton frère chez l'avocat, pas le tocard commis d'office. Jette le portable, brûle ta puce. Chaque appel est piégeable, reprends le bus. Les gamos tombent en panne pendant les courses poursuites. Y'a pas de hasard ou d'arrestation fortuite. Tous les moutons sont des balances si t'es le berger. Quitte la ville vite si on veut t'héberger. J'parle des pros, pas ceux qui taffent pour les gourmets. Mais t'as ces fous pour y retourner. Les vaillants c'est pour les passagers clandestins. Allant rechercher est son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal. Chacun ses stars, c'est les passagers clandestins. Allant rechercher est son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal. Chacun ses stars. C'est la barbe, quelquefois tu mets des lunettes. La main sur le métal, sous la douche ou à la buvette. Ils ont relâché ta sœur et ton père. Comme si le maire de Toulouse, la cabale, c'est la double peine. Le temps va, tout s'en va. Ne sois pas déçu si tous s'en vont, c'est comme ça. Les solitaires se connaissent, soit ton pote grave. Avion, destination, chut, avant ça. Récupère tes thunes, c'est ces enfoirés qui n'auraient pas envoyé de mandat. Claque ton bif en soirée, ancien associé, nouveaux ennemis. T'es au courant devant l'argent, plus Bible, de Torah ni de Coran. Ils demandent pas d'excuses devant les chefs d'accusation. Car seul Dieu juge les lois que seuls les grands se montrent comprennent. Bientôt tu comprends l'héritage qu'on traîne. Passager clandestin. Allant rechercher est son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal. Chacun ses stars, c'est les passagers clandestins. Allant rechercher est son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal. Chacun ses stars. Beaucoup de cassos sulfuriques, quelques génies. Tous fils d'ouvriers voulant ce qu'ils méritent. J'ose un hommage aux gangsters. Car avant les rappeurs et footballeurs, c'était les références majeures. Avec le faux offert pour prendre l'envergure. Le choix pas si mauvais, juste plus dur. Contre un système en colère, rien ne suffit, surtout pas t'as fait subir des collègues de mer. Viser le milliard et l'état d'esprit. Atteindre l'objectif malgré le risque pris. Les voyous sont sur piédestal. Sortis de mythes arrachés, hardis sont des les mélanges stars. Rappeur 30 pas de fréquenter des criminels. Comme un gosse qui monte des capotes triple XL. Dans la rue, les gens y vivent. On a la chance d'en parler, enfoiré. Passager clandestin, allant rechercher son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal, chacun ses stars, c'est les passagers clandestins. Allant rechercher son destin. Caché, protégé par ton instinct. Gangster sur piédestal, chacun ses stars. O, M, O, avec un peu de swing sur le mic. O, M, O, je vais vous faire ses soeurs comme un jeu d'aller. O, allez, allez, M, allez, O, allez, lève les bras, faites pas le coup. Applaudissez. O, M, O, Chino, vas-y.
Alors, cette histoire de fraude-là, ça nous a fait penser à quelques textes qu'on avait lus où il y a des passages qui parlent de fraude. Alors, le premier qu'on va lire, c'est un extrait d'un livre du célèbre Henri Vincenot, Les yeux en face des trous. Alors, Vincenot, il est un peu connu pour tout ce qu'il a écrit sur la Bourgogne et tout ça. Du coup, on l'encense dans les musées et tout ça. Sauf qu'il y a il y a quelques passages qu'on n'a pas retenus et qui sont pourtant très intéressants. Alors là, dans ce livre-là, c'est l'histoire d'un type qui habite dans la campagne bourguignonne et qui se retrouve à devoir se barrer de chez lui parce qu'on construit un puits de pétrole juste à côté et qui va à Paris pour rechercher du boulot. Alors là, il arrive à Paris, il arrive à la gare. Paris. Pourquoi, belle dame, t'es-tu laissée environner de ces laideurs ? Tu es vérolée. Ma pauvre splendeur, n'en déplaise au poète, tes enfants, tu es vérolée. Et l'on ne saurait te posséder sans jeter un voile sur ses souillures, vestige de l'inavouable commerce de l'ingénieur avec l'industriel. En gare de Lyon, devant cette grande abondance de gens impassibles et muets, qui se hâtent méchamment, je reste le souffle coupé. Après 10 ans de solitude ininterrompue, j'en prends un bon coup dans l'estomac. À la campagne, lorsqu'on voit les gens se hâter, c'est qu'il y a la fête quelque part. C'est pourquoi je le comprends maintenant, le campagnard voyant courir les Parisiens s'imagine qu'à Paris c'est toujours la fête. Il suffit de retrouver le métro pour sentir tout son courage d'honnête homme s'évanouir. On a beau s'être envoyé, jadis, 4 fois par jour le trajet Barbès-Malesherbes pendant 3 ans, lorsqu'on revient des zones libres, on est un peu désemparé de constater la passivité de ces gens devant les interdictions mécaniques, portillons automatiques, chicanes et grilles dans cet étroit boyau sanitaire. L'odeur est la même qu'il y a 15 ans. Un vague citrate y lutte sans conviction contre un suldrite fat double de balayure et de crachat. Le nom des stations fait toujours le charmant poème qu'on égrène pour faire passer le temps. Je descends à la station Chaussée d'Antin. On entend la rame précédente qui s'en va dans le tunnel alors que sa cargaison n'a pas encore fini de s'écouler. Je prends la suite en piétinant. Dans le couloir semi-cylindrique, j'ai la stupide impression qu'il m'est impossible de respirer. Le synchronisme dans la passivité de 1000 personnes m'étouffe et me pousse à ricaner. Mes 10 ans de grand air et de liberté explosent dans cet égout suintant. J'avise le sens interdit. La porte en est ouverte et le passage est vide. Je m'y précipite. 10 ans de vie normale et l'on devient un mauvais citoyen, bien sûr. Je gravis 4 à 4 l'escalier devant cette boue humaine qui dégorge là-haut avec la bonne conscience d'une matière bien moulée. Le poinçonneur est en haut de l'escalier. Il me regarde monter comme une araignée contemple la mouche qui vient de s'engager dans ses raies. Il va pouvoir se venger sur l'insecte adulte et folâtrant que je suis, de toute une vie définitivement souterraine et larvaire. « Alors, dit-il, on ne sait plus lire ?» On n'a pas mené une vie d'évasion permanente sans acquérir une solide technique de la simulation. Avec une délectation que seuls les fumistes intégraux comprendront, je prendrai un visage où le respectueux effarement l'emporte de peu sur l'incompréhension et je simule la surdimutité. Hein, hein, hein ? L'autre prend une figure de cuiste attendrie. Sourd-muet ? Hein, hein, hein ? C'est un fin titi parisien, il a ce trait. Fallait le dire que t'étais sourd-muet. Allez, file, la prochaine fois, procès, compris ? Et me voilà dehors. J'ai toujours été confondu par la facilité avec laquelle, finalement, on échappait à la loi commune. C'est d'ailleurs une de mes seules raisons d'espérer. N'exagérons pas l'importance de cette petite victoire. C'était un simple coup de sonde à l'occasion du plus banal des gestes parisiens, mais avouons qu'il y a quelque satisfaction à constater que les mailles qui retiennent tout le monde sont trop grosses pour soi. Que les réflexes sont prompts, la mimique encore juste, et après 2 lustres d'inaction, la petite machine à fabriquer le cas particulier fonctionne comme si on l'avait graissé la veille. Les frères, les purs j'entends, vont me dire que j'ai tort de divulguer ça dans un livre et que mes cyniques aveux vont rendre trop difficile la fraude, dernier rempart de la dignité humaine. Qu'ils se tranquillisent. La fraude sera toujours possible pour ceux qui sauront s'en rendre dignes. Et même, il ne serait pas fâcheux qu'elle devint, à force d'être combattue par des moyens de plus en plus subtils, franchement plus difficiles. La réussite serait plus exaltante et donnerait, à ceux qui y atteindraient, l'impression d'être l'exception de l'exception. Réussir à échapper, par sa propre industrie, à l'étreinte collective est un honneur qu'il faut mériter difficilement.
Merci. Alors, à mon tour, je vais juste prendre quelques minutes pour lire un passage d'un livre de Pablo Neruda, un livre en fait qui raconte ses mémoires. Et donc, Pablo Neruda, il était fils d'un cheminot, donc du coup, il a passé beaucoup de temps dans des trains. Et il a aussi passé du temps dans des trains quand il est parti en pension à Santiago du Chili pour étudier, donc pension qui était à plus de 600 km de son village natal. Et donc à des moments, il faisait ce trajet de 600 km, donc de plus d'un jour et demi de train, et il raconte les petites tactiques de fraude de cette époque-là. Donc du coup, je vais vous lire cet extrait. Après de nombreuses années de collège, durant lesquelles je me heurtais toujours, en décembre, à l'examen de mathématiques, je me trouvais extérieurement prêt à affronter l'université, à Santiago du Chili. Je dis extérieurement, car intérieurement, ma tête était bourrée de livres, de rêves et de poèmes qui bourdonnaient comme des abeilles. Muni d'une malle de fer blanc, avec l'indispensable costume noir du poète, mince et tranchant comme un couteau, je montais dans le wagon de troisième classe du train de nuit qui mettait un jour et une nuit interminables pour arriver à Santiago. Ce long train qui traversait des zones et des climats différents et dans lequel j'ai voyagé si souvent garde encore pour moi son charme insolite. Paysans aux ponchos mouillés, avec des poules dans leurs paniers, arrogants taciturnes, toute une vie palpitait dans le wagon de troisième classe. Nombreux étaient ceux qui voyageaient sans payer, sous les banquettes. Une métamorphose se produisait lorsque le contrôleur apparaissait. Beaucoup s'éclipsaient et quelques-uns se cachaient sous un poncho au-dessus duquel un, deux, trois voyageurs feignaient aussitôt de jouer aux cartes sans que l'attention de l'inspecteur fût attirée par cette table improvisée. Entre-temps, le train passait dans des campagnes avec leurs chênes, leurs araucarias, et leurs maisons de bois mouillées au peuplier du centre du Chili, et aux constructions d'argile poussiéreuse. J'ai souvent fait ce voyage, aller et retour, entre la capitale et la province, mais j'ai toujours éprouvé la même sensation d'étouffement quand je sortais des grandes forêts du bois originel. Les maisons de briques séchées, les villes avec un passé, me paraissaient pleines de toiles d'araignées et de silence. Jusqu'à maintenant, je demeure un poète de l'intempérie, de la forêt froide, et j'ai perdu à cette époque.
خلاقيام كانت من كرة والحب يقولوا طيح السروج بالفرسان ما أنا ما أنا ما يا أنا ما أنا ما يا أنا ما أنا ما أنا ما أنا والحب اللي به مرض ما يبرى والحب اللي تعالج طبه مكانه ويا زوليخة مرت منك ما نبرا والله يجيب الشفا لي عجلان واه وتسكن ولفي في البلاد المشهورة في العاصمة الغالية عز البلدان ما انا ما انا ما يا انا ما انا ما يا انا ما انا ما انا ما انا
Vous êtes bien sur Vacarme en Réunion 92.2 et on va revenir maintenant pour ceux qui ont suivi un peu les précédentes émissions, à la fois de Terrain Vague et de Vacarme en Réunion, sur les migrants. C'était donc les précédentes émissions, on était allé les rencontrer dans leur nouveau squat de la rue René Coty. Pendant la première émission, on avait déjà relaté l'expulsion du squat de la boucherie qui avait eu lieu cet été en juillet. Et la préfecture de Dijon a de nouveau frappé et le squat des Petites Roches a été expulsé cette semaine. C'était mercredi, il me semble, et on était quelques-uns à être présents. C'est ton cas, Lilou?
Oui.
Du coup, est-ce que tu peux nous raconter un peu comment ça s'est passé, dans quelle ambiance c'est arrivé?
Avant de raconter vraiment comment ça s'est passé, je voulais juste rappeler qu'en fait, déjà, où était le squat des Petites Roches? Parce qu'il est d'ailleurs pas loin d'ici, il est sur le boulevard de l'université. Et donc le squat des Petites Roches, c'était quand même une maison où 80 migrants, entre 80 et 120 migrants pouvaient habiter à l'année. Et donc ça rassemblait quand même vraiment beaucoup, beaucoup de gens, enfin beaucoup de migrants. Et donc surtout, je voulais aussi rappeler, comme certains migrants le rappellent d'ailleurs dans leur récit, dans les émissions précédentes, que c'était un endroit où, par exemple, les migrants de Coty, qui pour la plupart sont passés par les Petites Roches, allaient souvent pour manger, pour se retrouver. Et que donc, du coup, il y avait vraiment une circulation entre ces deux lieux. Et que là, le fait qu'il y en ait un qui disparaisse, ça complique vraiment la situation, déjà en termes de place. Parce qu'on sait que le squat rue Coty, il est déjà vraiment beaucoup habité. Donc, du coup, on voit difficilement comment tous ceux qui étaient aux Petites Roches pourraient habiter là-bas aujourd'hui. Donc sinon, pour revenir plus à l'expulsion, donc à mercredi matin, moi, en tout cas, si je le raconte comment je l'ai vécu, c'était une expérience assez étrange. On est arrivé là-bas, on n'était pas nombreux, ceux avec qui on était partis en tout cas. Et quand on est arrivé là-bas, il n'y avait personne, nous, alors qu'on s'attendait à voir des gens qu'on connaissait. Et même au début, on a eu l'impression qu'il n'y avait pas de migrants. C'est en faisant le tour du bâtiment et en regardant un peu à travers les portes qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des migrants qui étaient là et qui dormaient. Et assez vite, on a directement vu la police arriver au portail, dire qu'ils allaient intervenir. Du coup, nous, on était dans une espèce d'ambiance de stress, à dire « Ah, réveillez-vous, il faut faire vos affaires, il y a la police qui arrive ». Et c'était assez étonnant de voir que pour eux, il y avait beaucoup moins cette espèce de sensation d'urgence et que tout le monde faisait ses affaires. La police arrive, elle ouvre les portes et tout le monde continue à faire ses affaires, sort petit à petit. Enfin bref, c'était une ambiance d'expulsion assez... assez procédural, quoi. Enfin, moi, je l'ai vécu un peu comme ça, où la police, elle est là, elle fait bonne figure, les migrants, ils sont là, ils s'en vont, et voilà. Du coup, moi, je trouve que ça laisse quelque chose d'assez triste, quoi. Et puis, nous, on se sent un peu faible, parce qu'on ne savait pas trop comment résister face à cette situation-là.
C'était comme si tout était joué d'avance, un petit peu.
Ouais, voilà, c'est ça. Comme si tout le monde avait bien sa place, quoi. Les policiers qui sont là, qui virent les gens. Nous qui partons aussi, on va attendre dans une rue. Il y a le préfet qui arrive, il y a la presse qui arrive, les journaux, la radio. En fait, tout est là, tout arrive au bon moment. Et nous, même nous, on a presque notre place là-dedans, dans ce truc-là, dans cette procédure. Et moi, je trouvais ça vraiment dérangeant.
Du coup, on a l'impression que la préfecture, en fait, elle se satisfait qu'il y ait un squat... qui soit ouvert régulièrement par les associations et histoire de pas perdre la face, quoi. Elle laisse un peu subsister des lieux ouverts comme ça, parce qu'elle est incapable de loger tous les migrants, mais par contre elle écrème au fur et à mesure et elle empêche que ça soit quand même un phénomène qui se répande dans toute la ville.
Ouais, il y avait un ami qui utilisait une image que je trouvais assez parlante, celle des vases communicants, quoi. Que hop, on remplit un squat, ça y est, on en a ouvert un autre, du coup on peut enfermer un autre. Que ouais, eux ils le prennent comme ça, vraiment dans une logique dans une logique, comme tu disais, quoi. Que ils font le minimum pour pouvoir assumer derrière une certaine politique sociale, etc. Alors que vraiment tout est calculé d'avance, quoi.
Et du coup, pour prolonger un petit peu et sortir un peu de Dijon sur cette question des migrants, étant donné l'actualité de la semaine, on voulait dire deux mots sur le naufrage qui a eu lieu au large de, en Méditerranée, c'était jeudi ou mercredi. Tu peux nous en dire deux mots?
Oui. Alors, donc juste pour présenter un peu cette affaire-là, c'est effectivement un naufrage donc, qui a eu lieu il n'y a pas longtemps. Donc un naufrage qui a eu lieu à 500 mètres des rives de Lampedusa, qui est une île en fait entre l'Italie et l'Afrique du Nord, où beaucoup de migrants passent en bateau pour essayer d'arriver en Italie. Et donc ce qui s'est passé, c'est que ce naufrage, il est arrivé un matin, personne n'a pu intervenir, il y a des pêcheurs qui étaient là, qui ont pu sauver une quarantaine de personnes, donc c'est-à-dire vraiment peu de gens. Et au final, derrière, les gens, ils ont retrouvé déjà 200 corps, morts. Et il y a encore 200 personnes portées disparues, qu'on imagine mortes, parce qu'on voit difficilement comment elles auraient pu survivre. Et pour vous donner une ordre d'idée, depuis 1980, c'est quand même 20 000 personnes qui sont mortes sur les rives de l'île de Lampedusa. Et donc pour finir de présenter cet événement, et on va en reparler un peu plus tard, on voulait juste dire que l'Italie, elle faisait un jour de deuil pour cette affaire-là.
Ouais, en fait, on était assez énervés par cette espèce d'hypocrisie. Où l'Italie, puis après, derrière toute l'Europe, même soutenue par le pape, se déclare en deuil, alors qu'il y a des très fortes politiques visant à empêcher, à juguler l'immigration vers l'Europe qui se développe depuis certaines années, qui sont de plus en plus dures, de plus en plus sécuritaires, de plus en plus armées par tout un arsenal de dispositifs technologiques et militaires et policiers. Donc, on voulait dédicacer un peu cette émission à tous les passagers clandestins, qu'ils soient des fraudeurs ou des haragas, comme on dit, venus d'Afrique du Nord. On va passer à un petit morceau de musique et on reparlera de ça après.
Mon histoire, celle d'un vulgaire vendeur à la sauvette. Jeune orané, errant de Hamri à la côte est. La faim nous creuse l'abdomen, jouté à la colle. Car ce pays nous a montré une certaine grandeur dans la colère. Je suis comme beaucoup d'autres, sans peur chaque semaine, à survivre à travers tous nos problèmes relationnels. Un putain d'avenir incertain, je vis au jour le jour et me dis que tout se joue sur la foi et que Allah seul même. Banal est mon quotidien, malgré tout ça c'est samedi. Toi que j'ai appris à prendre le bonheur comme il vient. Tu sais ici, la misère du monde est aussi mienne. Ouais, la jeunesse dorée qui se la pète en de gros cylindres. Plaidard officiel, une réalité classée d'une génération qui attend juste ce que lui a promis le ciel. La tradition ancrée dans la souche, à force me vautrer dans la boue. J'en ai perdu le sens et je n'ai pas su lui rester trop fidèle. Mon coup du siècle, traverser la mer, car on m'a dit que le bonheur est à l'autre. Alors je veux voir le coup du sien. Chez nous, la chance est rieuse, surtout quand elle sait d'où tu viens. Et comme elle s'est parée en rêve, car ça nous fait tout du bien. J'ai l'amour d'une mère pour mon pays, mais rarement le goût du miel, car notre destin est peu probable et la mort balaye tout d'une main. Certains attendent et d'autres vivent à travers une foutue seringue d'entrée. Si alors dis-moi ce que tu ressens à l'écoute du mien. Je donnerai tout pour avoir un peu de votre vie, je prendrai tout. J'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est basse, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Je donnerai tout pour avoir un peu de votre vie, je prendrai tout. J'irai même jusqu'à mourir sous vos rires. Je n'ai plus rien à perdre, hélas. Même si la mer est basse, je tenterai le coup pour ne plus rester assis sur l'autre rive. Le jour j'y approche, je compte plus les minutes, les secondes et puis je compte plus chaque dinar mis à gauche. Rêve de fuir car ce quotidien m'a pris à la gorge. Dites-moi qui laisserait passer sa chance pour une vie atroce, conscient de tout laisser derrière moi. Ma famille, mes proches, mes repères, poursuivre une certaine étoile. La cause, celle qui j'espère mènera vers les côtes d'Espagne, direction la France pour y construire un avenir noble et stable. Alors je fuis car l'appétit me pousse à être trop bestial. Je fuis mon frère car ici mon amour propre est sale. Je suis qu'un Algérien parmi tant d'autres qui poursuit sa quête de liberté, car chez nous elle est devenue.
Vacarmont Réunion, c'est la dernière émission sûrement qu'on va faire sur les migrants, et là on va parler un peu des politiques migratoires européennes pendant quelques minutes. Donc ça nous tenait à cœur de parler un peu de ça, et d'écrire et de prendre un peu le contre-pied de toute l'hypocrisie qui traîne autour du drame qui a eu lieu au large de Lampedusa, qui a vu mourir 300 migrants qui tentaient de venir jusque sur les côtes européennes. Donc ces migrants, on les appelle les haragas, ça veut dire littéralement brûleurs de papier, et c'était le titre de la chanson que vous venez d'écouter d'un rappeur algérien qui s'appelle Diver. Voilà, du coup on voulait parler un peu de Frontex, plus particulièrement, puisque c'est le nom depuis 2004 de l'Agence européenne pour le contrôle des frontières extérieures. Donc, agence qui a été créée en 2004 et qui accompagnait la transformation des routes migratoires. Avant, il y avait beaucoup de migrants qui passaient notamment par Gibraltar et par l'Espagne. Également, beaucoup de migrants qui passaient par Lampedusa. Et malgré ce qui est arrivé cette semaine, c'est une route qui est de moins en moins empruntée, à contrario de celle qui passe par la Grèce. Lampedusa, déjà, il y a moins de monde qui passe par Lampedusa. Et en plus, c'est davantage un centre de transit. Et les migrants préfèrent l'éviter. Et ils s'y arrêtent uniquement quand ils sont en difficulté ou quand ils y sont contraints. Voilà, donc... La plupart des migrants passent donc par la Grèce et par les Balkans. Et proportionnellement, il y a moins de migrants qui viennent d'Afrique que des pays comme la Russie, notamment des réfugiés tchétchènes, d'Irak et d'Afghanistan, donc de l'Est de l'Europe. En 1985, pour revenir un peu en arrière par rapport à la création de Frontex, c'est la création de l'espace Schengen, donc de libre circulation des biens et des personnes. Et donc cette libre circulation à l'intérieur de l'Europe s'accompagne d'un durcissement du contrôle aux frontières. Donc Frontex, créé en 2004, qui a un rôle quasiment exclusivement militaro-policier, s'articule à ce qu'on appelle une politique d'externalisation de l'asile, c'est-à-dire que l'Europe passe tout à l'accord avec les pays frontaliers, que ce soit des pays européens ou des pays africains ou même d'Amérique, du continent américain, pour juguler l'immigration avant même l'arrivée aux portes de l'Europe. C'est-à-dire qu'elle passe des accords et elle paye des États pour développer des politiques et développer des dispositifs qui permettent de contrôler l'immigration dans leur propre pays. Et ce qui lui permet de ne pas se salir les mains et de laisser à d'autres le sale boulot de répression. Voilà. Pour parler un peu plus de Frontex, donc ce qu'on disait, donc c'est une agence qui a un rôle essentiellement militaro-policier. Et à la base, son rôle, c'était de coordonner les opérations entre les États membres au contrôle des frontières. Donc elle avait un rôle à la fois d'action sur le terrain, où elle coordonnait les forces de différents États. Elle créait aussi ses propres brigades d'intervention d'urgence pour porter main forte à certains États, comme par exemple la Grèce, quand il y a des situations de crise, où il y a des migrants qui arrivent de manière massive, donc avec une capacité peu utilisée, mais de réponse rapide, d'action rapide. Mais c'est aussi une agence qui propose des analyses des risques, qui investit beaucoup dans la recherche et le développement de nouvelles technologies, qui entraîne les gardes frontières, qui fait des expertises, etc. Et également, elle ne se contente pas d'être efficace sur les frontières et d'empêcher les migrants de parvenir jusqu'en Europe. Elle travaille aussi au retour, donc aux opérations conjointes de renvoi des migrants dans leur pays. Et ce qui est un peu flippant dans tout ça, c'est que la dynamique actuelle de Frontex, c'est d'être une agence toujours plus indépendante, toujours moins qui a toujours besoin moins de s'organiser avec les États pour à la fois au niveau matériel, mais au niveau de ses actions, comme celle d'organiser les retours par charter des migrants. Et donc, ce qu'on peut craindre qui se profile, c'est une gestion exclusivement policière du problème des migrants, avec un arbitraire toujours plus fort qui serait à l'honneur. Voilà. Du coup, pour dire deux mots en plus sur Frontex, ce qui nous importait là-dedans, c'est que c'est un véritable laboratoire des dispositifs de surveillance et de contrôle. C'est pour ça aussi qu'on voulait en parler, c'est parce qu'on a l'impression que du coup, ça ne concerne pas uniquement les migrants qui viennent de loin et dont on n'entend jamais parler, mais c'est aussi par ces agences-là que se développent les nouvelles technologies de surveillance et que se développe l'industrie des hautes technologies de contrôle, et ce qui nous concerne directement à beaucoup d'égards, puisqu'on vit une époque où c'est les technologies, les fichiers, les documents biométriques, etc., ont toujours plus de prise sur nos déplacements et sur les flux, sur le contrôle des flux de manière générale, et pas uniquement du contrôle des flux des migrants clandestins. Voilà, donc un peu plus concrètement, Frontex, c'est donc principalement la coordination des patrouilles humaines, des brigades de police d'experts qui sont capables d'intervenir en cas de crise, et tous les nouveaux dispositifs qu'on peut l'usage et le développement de tous les nouveaux dispositifs qu'on peut imaginer, en particulier les drones, qu'ils soient des drones aériens, terrestres ou maritimes. Du coup, contrairement à ce qu'on s'imagine, les frontières de l'Europe, c'est pas seulement les murs de Ceuta et de Melilla, c'est deux enclaves au Maroc, c'est deux enclaves espagnoles au Maroc, où le mur qui a récemment commencé à être construit entre la Grèce et la Turquie, c'est aussi tout un tas de dispositifs invisibles qui enserrent l'Europe, qui créent un espèce de mur transparent qui est matérialisé par rien d'autre que la surveillance permanente grâce aux drones et aux technologies de ce genre-là. Voilà. Du coup, Frontex et puis les États membres qui financent et se servent de Frontex et sont servis par Frontex se servent de l'épouvantail de l'invasion migratoire pour justifier la multiplication des dispositifs de contrôle des flux, comme je disais, soit les fichiers, les documents biométriques, les drones, etc. Et ce qui est redoutable là-dedans, ce qui nous paraissait redoutable là-dedans, c'est que c'est l'émergence d'un pouvoir technocratique, donc qui se présente au premier abord, quand il est créé en 2004, comme une simple boîte à outils, une simple agence de gestion, d'expertise technique qui propose des opérations concrètes. Et donc ça voile complètement les positionnements politiques et la guerre qui est faite aux frontières, qui est faite aux migrants. L'évolution de Frontex actuellement, comme je disais, c'est aussi une croissance de son pouvoir, une croissance de son autonomie, et donc une gestion toujours plus policière de la présence des individus en Europe. Voilà, du coup, ça c'était pour mettre un peu les choses au clair et prendre le contre-pied de toute l'espèce d'émotion simulée des représentants politiques qu'on a pu voir dans les médias ces derniers jours à l'occasion du naufrage des Araga au large de Lampedusa. Maintenant,
avant de terminer, on va déjà rappeler qu'on va passer à la dernière rubrique de cette émission. Donc, on se rappelle juste qu'on est bien sur Vacarmont Réunion. Donc, la dernière rubrique, c'est la boîte à outils. Et aujourd'hui, on va vous parler du garde à vue. Et donc, on va commencer par la musique cette fois-ci. Donc, c'est une musique de 113 qui s'appelle Garde à vue.
Les avocats montent à la barre, ils contestent les placements en garde à vue qui ne respecteraient pas les exigences de la Cour européenne des droits de l'homme, voire même le droit pénal français, ce qui rendrait inconstitutionnel les gardes à vue. Un droit qui n'est pas toujours appliqué.
Un fois chef de poste, frappe-moi avec ta matraque de toutes tes forces, tu me feras jamais une bosse. Moi j'en veux pas ta portion de riz, respecte-moi, ah, j'ai pas braqué la poissonnerie. Pour moi c'est l'embargo, pour un clochard c'est l'embellie. Demain se fait les lèches pas sans flagrant délit. On garde la forme, on a les vices de forme. On s'est réduit à les peines avec une arme en plastoc. Je n'ai en bloc c'est fastoche. Même moi au rap je ressors ma stock. Et j'investis ton salaire dans un match top. La garde d'Ave c'est Disneyland, le quartier c'est Woodstock. Faites briller les lampes Porsche, j'ai l'habitude des spots. Je suis l'idole de vos gamines, j'ai préparé sous le lit de la mort aura pour la brigade Kaline. On assume ce qu'on commet, je fais de la monnaie. Tu m'attraperas jamais, j'ai de la seconde dans les mollets.
J'ai gravé 24 heures, 48 heures, 72 heures selon le procureur.
J'ai gravé
le nom de mon quartier, mon prénom, des insultes, la date de mon arrestation.
J'ai gardé
le silence des souvenirs pour tenir le coup, même s'il me pousse à bout.
J'ai gravé.
Ok, je sais même plus quelle heure il est, je suis complètement déconnecté. Un flic joue avec moi du regard devant la porte vitrée. Habitué à une hygiène de quinfri, de douche par jour, je me retrouve crade comme un punk sur un carrefour. Un qui me permet de distinguer le jour de la nuit. Le temps s'étire et on me traite avec beaucoup de mépris. Les poignets entaillés, ça n'arrête pas de crier. J'ai envie de grailler, mais c'est quand je vais tailler. J'entends le pas des inspecteurs, le bruit des casiers, les allers-retours dans les escaliers. J'imagine l'inquiétude des proches à l'extérieur. En attendant, faut que je leur mette une disquette à l'intérieur. Souris pas, demain ce sera peut-être toi, je te le souhaite pas. Personne n'est à l'abri, demande un tapis, je reste digne, j'ai des principes, je pars au dépôt en principe. Faut que l'avocat me sorte de ce casse-pipe.
J'ai gravé
24 heures, 48 heures, 72 heures selon le procureur.
J'ai gravé
le nom de mon quartier, mon prénom, des insultes, la date de mon arrestation.
J'ai gardé
le silence des souvenirs pour tenir le coup, même s'il me pousse à bout.
J'ai gravé
déjà plus 24 heures de garde à vue. Faut me crever pour que je crache si tu veux voir de quoi je suis capable. Et bleu, appelle mon baveux, je passerai pas aux aveux. En plus, je sais même pas pourquoi je suis en garde à vue. Au péage, ils m'ont contrôlé, pensaient qu'on revenait d'Hollande. Ensuite, ils m'ont menotté, ces bâtards étaient violents. Je suis bloqué en pleine campagne, là-bas y'a rien. En plus, je suis loin du quartier, y'a pas de témoins. Mais moi seul en cellule, j'ai l'habitude. Quelques séries pompes pour passer le temps et je vous insulte. Gradé ou pas, enlève ta main. J'en ai marre de faire les 100 pas. Toujours le même refrain. Pas de stress jusqu'au verdict. Soirée merdique. Fais-moi signe quand on ira au palais de justice. Pour l'instant je suis bloqué là.
Et l'heure tourne, et l'heure tourne.
Enfermé au comico.
Et l'heure tourne, et l'heure tourne.
J'ai
24 heures, 48 heures, 72 heures selon le procureur.
J'ai gravé
le nom de mon quartier, mon prénom, des insultes, la date de mon arrestation.
J'ai gardé
le silence des souvenirs pour tenir le coup, même s'il me pousse à bout.
J'ai gravé
la BAC. Tout le monde tourne en rond, chope personne glande. Quand tu sors de Gervais, mais t'es larcé.
J'ai
la BAC. Tout le monde tourne en rond, chope personne glande. Quand tu sors de Gervais, mais t'es larcé.
J'ai
désormais, tout le monde est susceptible de connaître un jour ce traitement. La difficulté de la garde à vue, c'est qu'on n'a pas de possibilité de contester par la suite une mesure de garde à vue qui aurait été injustifiée.
Oui, alors je vais me reprendre tout de suite. On ne dit pas le garde, le garde à vue, mais la garde à vue.
Le garde à vue.
Le garde à vue. Bon, donc la garde à vue. Donc... Bah oui, peut-être on va essayer de poser quelques questions. Déjà, on peut se demander si on se fait arrêter par la police, comment on sait qu'on va aller en garde à vue ? Enfin, par exemple, quand on se fait arrêter à un moment donné, qu'on est emmené au commissariat, on n'est pas directement interpellé et emmené en garde à vue. Donc du coup, qu'est-ce qui se passe pour qu'il y ait une déclaration de garde à vue ?
En fait, déjà, il faut préciser, parce qu'il y a plusieurs cas... on peut distinguer trois principaux cas qui font qu'on peut se retrouver en garde à vue. Donc celui que tu citais, il se rapprochait plus du flagrant délit ou du soupçon de flagrant délit. Du coup, quand on est soupçonné d'avoir commis une infraction et qu'on est emmené au poste, voilà. La deuxième cas, c'est une enquête préliminaire. Et le troisième cas, c'est une instruction, donc une instruction qui est déjà en cours. Et donc, en fait, ce que ça change, c'est qu'on est sous autorité du procureur ou du juge d'instruction suivant ces cas. Du coup, là, on va plus parler du flagrant délit, parce que c'est la situation la plus commune, où là, on est sous l'autorité du procureur. Et du coup, soit on est placé directement en garde à vue, et ça doit nous être notifié expressément par les policiers, et qui, après, sont astreints à tout un tas de déclarations qu'ils doivent nous faire concernant nos droits, les personnes qu'on doit prévenir, etc. Je reviendrai juste après là-dessus. Ou alors, il y a d'autres cas où on commence par être en vérification d'identité. Et si jamais il s'avère que la vérification d'identité ne suffit pas à la police ou ne les satisfait pas, ils peuvent nous passer en garde à vue. Et à ce moment-là, l'heure de début de la garde à vue doit coïncider avec... englobe en fait la vérification d'identité. Ça commence comme ça et normalement les policiers sont censés nous mettre au courant très explicitement qu'on est en garde à vue. Et pour les premières 24 heures, légalement, les policiers peuvent décider seuls du début de la garde à vue. Ensuite, tout ce qui se passe après, c'est sous autorité du procureur. Mais le point de départ, la mise en garde à vue, ça peut être les policiers qui prennent cette décision. Voilà, donc,
Une fois qu'on est mis en garde à vue donc, du coup, par les policiers et qu'on est sous l'autorité du procureur, c'est quoi nos droits en garde à vue ? Est-ce qu'on est obligé de répondre à toutes les questions de la police ? Est-ce qu'on est obligé, qu'est-ce qu'on a le droit de faire ? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit de faire ? Et en fonction de ce qu'on refuse, qu'est-ce qu'on risque ?
Du coup, d'abord, les droits eux-mêmes doivent être... c'est une obligation pour les policiers de notifier quels sont les droits. Ça, c'est un point. Ils doivent explicitement t'expliquer qu'est-ce qui va t'arriver et qu'est-ce que tu as le droit de faire ou pas de faire. Ensuite, ils informent parfois le procureur. Toi, tu peux, et s'ils ne le font pas, tu peux demander à ce que le procureur soit informé. Bon, le procureur, c'est pas quelqu'un qui va être plus sympathique avec toi, mais ça fait qu'ils peuvent pas eux-mêmes décider de ce qui t'arrive n'importe comment. Ensuite, tu as le droit de faire prévenir tes proches, ça ils sont censés te le dire également, et tu as le droit de voir deux personnes principalement, un médecin et un avocat. Du coup, le médecin, ça peut être utile de demander à le voir, même si t'es pas malade, simplement pour voir quelqu'un, pour casser un peu la solitude de la garde à vue, pour même si c'est assez court, et aussi pour faire constater, si c'est le cas, que t'es blessé ou alors que t'es pas blessé, pour que y ait quelque chose qui atteste de tes blessures ou qui atteste de ton absence de blessure et qui fait que si jamais les flics te frappent par la suite, ça soit prouvé que c'est bien eux qui t'ont porté des coups.
Ensuite... Après, faut faire attention à ça aussi parce que on sait qu'à Dijon, il y a déjà eu des histoires où les médecins étaient de mèche avec les flics et constataient des blessures qui disaient très superficielles sur les gens qui étaient en garde à vue et de l'autre côté ils bombardaient de jours d'interruption de travail les policiers qui avaient des blessures très légères quoi. Du coup c'est toujours bien de briser la solitude de la garde à vue en voyant un médecin, mais il faut savoir que faut pas tout lui raconter et qu'ils peuvent être de l'autre côté aussi.
C'est pas une personne de confiance, contrairement normalement à l'avocat.
Juste une question par rapport à l'avocat. L'avocat, je peux le choisir si par exemple moi je connais un avocat dans la ville et que je sais qu'il est.
Ouais, tout à fait. Et d'ailleurs, c'est toujours mieux de connaître un avocat et de le choisir. Un avocat en qui on a confiance, c'est toujours mieux qu'un commis d'office. Parce qu'en fait, si on connaît le nom d'un avocat, on peut demander aux flics de le prévenir. Donc les flics sont obligés de prévenir un avocat de notre choix. Mais par contre, si jamais il n'est pas joignable, c'est pas eux qui sont responsables. Et ils peuvent abandonner la tentative de le joindre. Et donc à ce moment-là, on peut se retrouver avec un avocat commis d'office. Le problème avec les commis d'office, c'est qu'on ne sait pas exactement comment ils se situent. Et ils peuvent te pousser à être un peu mou et à répondre aux questions des flics en disant qu'il vaut mieux que tu sortes le plus vite possible ou je ne sais quoi, et ils vont pas forcément te pousser à tenir un rapport de force, à en dire le moins possible, à te protéger le maximum. Pour des fois ils sont un peu mauvais là-dessus, donc c'est toujours mieux de connaître un avocat en qui on sait qu'on a confiance et avec qui on sait qu'on va pouvoir montrer une véritable stratégie face aux flics, parce qu'en fait l'enjeu principal...
Juste tout ça, on est bien d'accord, l'avocat ça nous coûte rien, c'est quelque chose qui...
Non, c'est à la charge de l'État. Quand t'es en garde à vue, ça te coûte absolument rien. Et du coup, en fait, l'enjeu, c'est... Enfin, je pense le plus important de ce qu'il faudrait retenir sur la garde à vue, c'est qu'il faut en dire véritablement le moins possible, surtout avant d'avoir vu son avocat, parce que tout ce que tu dis en garde à vue, ça va se retourner contre toi à ton procès. Donc ce qu'il faut savoir principalement, c'est qu'il n'y a absolument aucune obligation de parler en garde à vue. Donc les flics, évidemment, ils vont faire tout pour te faire croire le contraire, te mettre la pression pendant les auditions, etc., venir te perturber ton sommeil si tu restes longtemps en garde à vue, te faire passer un mauvais moment pour te faire craquer psychologiquement. Mais tu n'as absolument aucune obligation de parler. Tu peux toujours dire « je n'ai rien à déclarer ». D'ailleurs, c'est ce qu'il faut dire si tu veux pas répondre à des questions ou si tu veux pas répondre à un interrogatoire. Tu dis « je n'ai rien à déclarer ». Et c'est vraiment les conséquences du silence. Ça va être la pression des flics, ça va être qu'ils vont te rendre la vie dure, mais ce sera toujours moins grave que d'avoir avoué quelque chose ou de s'être fait piéger et de se retrouver à avoir dit quelque chose qui te met en défaut pour ton procès, parce que tout ce que tu dis dans ton procès, tout ce qui va être inscrit dans le procès verbal de la garde à vue, ça sera utilisé si après tu passes en coup par émission immédiate ou en procès, ça va être utilisé contre toi et ça sera définitif. Ça sera très difficile pour ton avocat de dire que, en fait, ce sera plus difficile pour ton avocat de revenir sur tes déclarations. Du coup, ça, c'était la principale chose qu'on voulait dire. sur cette injonction à parler. Et ensuite, le problème de la garde à vue, c'est que toutes les conditions sont créées pour que ce soit la solitude, que ce soit le froid, que ce soit l'absence de couverture ou de bouffe et tout ça. Parce que faut savoir que les conditions de ta garde à vue, les conditions matérielles de ta garde à vue, elles sont assez faiblement encadrées par la loi. C'est-à-dire que normalement, les flics sont censés te filent à bouffer, etc., mais que c'est une obligation qui est très relative au regard de la loi, quoi. Du coup, ils vont créer toutes les conditions pour te faire craquer. Tu sais pas la plupart du temps combien de temps tu vas rester, etc. Cette ignorance, psychologiquement, elle est sûrement assez dure à supporter. Du coup, la deuxième chose qu'on voulait dire, c'est qu'il y a des gens en dehors qui peuvent s'organiser pour te soutenir. Du coup, tout ce qui peut, même si c'est juste aller gueuler devant ou se réunir devant le commissariat pour gueuler, pour que la personne entende ou la soutenir, ça peut permettre de vraiment psychologiquement tenir mieux et moins ouvrir sa gueule. Et du coup, les autres choses que les gens peuvent faire dehors, c'est préparer des documents, tes garanties de représentation, c'est-à-dire soit si tu travailles, document qui atteste ça, qui atteste où est-ce que tu habites, etc., au cas où tu passes en comparution immédiate. Et ça pourrait t'éviter de te retrouver en détention préventive au cas où tu refuses ta comparution immédiate. Si tu as des garanties de représentation, s'il y a quelque chose qui peut prouver au juge où est-ce que tu habites, que tu as un travail, etc., ça peut lui permettre de te laisser repartir à l'issue de ta comparution immédiate sans passer par la case prison. Voilà. Et ensuite, la dernière chose qu'on voulait dire, c'était à propos des signatures des documents. Donc pareil, t'es pas obligé de signer, et signer, ça équivaut à reconnaître ce qui est dit et ce qui est écrit dans les procès-verbaux. Du coup, il vaut mieux toujours refuser de signer, surtout les dépositions de départ et la notification de fin de garde à vue. Si tu signes pas, ça peut faciliter, contrairement à ce qui était dit à la fin de la chanson, à ton avocat de plaider la nullité de la garde à vue si jamais il y a eu un vice de procédure, si jamais il y a quelque chose qui n'a pas été fait dans les formes. Voilà, donc il vaut mieux ne pas signer, à part les choses vraiment mineures comme il y en a des fois en garde à vue. Voilà.
Ok, alors pour finir l'émission, on va faire une petite dédicace à tous les gens qui sont enfermés au Mitard. On sait qu'à Dijon, la seule station qui capte, c'est Radio Campus. Alors écoutez ça, c'est Le Mitard, c'est un texte de Jacques Mesrine qui a été mis en musique par Trust.
Oui, madame. Il tourne en des milliers de pas qui ne mènent nulle part dans un monde de béton aux arbres de barreaux fleuris de désespoir. Inhumain rétréci sans aucun lendemain. Sa bite en s'est glissée sous une grille à terre et dans un pololo pour qu'il se désaltère. Il est seul, sans soleil. Et n'a même plus son ombre infidèle compagne. Elle s'en est allée, refusant d'être esclave de ce vivant borné. Il tournera toujours, jusqu'au jour où vaincu en animal blessé. Après avoir gémi en une unique plainte, il tombera à terre et se laissera crever pour trouver dans la mort sa seule liberté. Fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu que je n'étais même pas personne. Fleurit mes registres un jour de septembre 76, où j'existais si peu. Mesrine. Je vous vois une larme, pourquoi vous attrister? Pauvre chien, me dites-vous, oh, voilà une erreur. Mais c'est un homme, madame, il est emprisonné.